Interview.
100 du jour.
Merci d'écouter RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Je suis en compagnie d'une partie de l'équipe de l'espace social avec Pascale Évieux, présidente, bonjour.
Co-présidente, bonjour.
Ah, c'est mieux de le préciser. Olivier Royer, directeur.
Oui, t'es pas directeur, co-directeur.
Et Coraline Monod, alors toi t'es chargée d'une mission, je sais plus laquelle.
C'est l'animation territoriale, donc c'est agent de développement social. On appelle ça.
Bien, j'ai mis à jour mes petites fiches. Avec vous trois, donc, on va aborder un petit peu les nouveautés, les projets de l'espace social. Peut-être d'abord en commençant par se faire un petit bilan, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, Olivier, notamment, c'est quand tu prenais tes fonctions quasiment de directeur à l'espace social. Que s'est-il passé un petit peu depuis? Et puis, bien, vous autres, participez quand vous voulez, bien sûr, hein, puisque vous êtes quasi rentré au même moment, je crois.
Oh, j'y étais déjà depuis un petit moment, hein,
oui.
Mais pas en coprésidence.
Ah, bon, alors voilà, ça tombe bien. Tout le monde est frais, alors.
Que s'est-il passé? Eh bien, pas mal de choses. Là, je suis en train de terminer sur cette semaine mon tour d'horizon de un an à l'espace social, parce que je suis arrivé le 20 septembre l'année dernière. Donc, on est vraiment dans ces clous-là. C'est vraiment très riche comme territoire, avec beaucoup de choses au niveau de l'espace social, à beaucoup de liens à retisser et à réactiver. Parce que je pense que la période de crise qui était due à la baisse de financement des collectivités, notamment, particulièrement et principalement du département, a fait que beaucoup de choses s'étaient un peu distendues. Et donc, ça a été beaucoup de reprises de contact, beaucoup d'interrogations et de travail sur le sens qu'avait notre travail et sur le travail en équipe qu'on devait faire tout un chacun, parce que c'est quand même une grosse équipe qui travaille au service du territoire et de son développement et du développement des assos. Et donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis aussi, savoir comment on travaille au mieux avec les bénévoles, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on est une association parmi beaucoup d'autres dans le DIWA. Et quelquefois, c'est difficile aussi pour les bénévoles de notre association de trouver leur place dans une grosse machine comme l'espace social. Mais je pense qu'on est sur les bons rails. On est toujours vraiment en recherche de nouveaux bénévoles. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à pousser la porte de l'espace social. Il y a de la place vraiment pour tout le monde pour développer des projets communs. Et puis, quoi dire d'autre? Ben, on est pas mal sur le développement de projets et d'accompagnement avec Coraline, qui est arrivée peu ou prou en même temps que moi. L'accueil de loisirs redéveloppe beaucoup ses accueils. Et dès l'année prochaine, notamment, on sera ouvert tout le mois d'août pour que les enfants du DIWA puissent être accueillis au mieux et que leurs parents, qui travaillent notamment dans le tourisme, puissent aussi le faire sereinement, sans être obligés de se faire des nœuds à la tête pour trouver des solutions d'accueil pour les enfants. Et puis là, on a un gros chantier de communication, que ce soit la communication autour du bâtiment même, pour qu'on sache qu'on est là, à cet endroit-là. On a refondé notre plaquette d'activité cette année, et puis on va essayer de faire un effort sur ce qu'est la communication pour être plus présent et sur Internet et puis sur les réseaux sociaux.
Pascal, le mot de la coprésidence, en intégrant cette équipe, cette dynamique que vous avez souhaité sans doute au niveau d'un CA aussi?
Alors voilà, je faisais partie du CA déjà depuis 3 ans, donc j'ai rempilé pour 3 ans et j'ai choisi de rentrer à la coprésidence d'une part pour renforcer l'équipe, puisqu'on est prévu pour 4 coprésidents et nous sommes 3 actuellement, donc il y a encore une place à la coprésidence. Et on est combien au CA?
12.
Voilà, donc j'ai choisi de rester au CA en m'impliquant dans la coprésidence et en étant très impliquée dans la participation à la vie de l'espace social en tant que bénévole sur différentes choses, particulièrement en m'occupant des collectifs, de ce réseau de femmes en appui pour les femmes, animé depuis l'espace social. Donc ça, c'est ce qui est nouveau d'ailleurs, et je l'anime bénévolement. Et en même temps, ben, le plaisir que j'ai, en dehors de participer aux décisions, je dirais, politiques, s'occuper de la vie de l'espace social au jour le jour, et sur des choix stratégiques et politiques, j'ai le plaisir de me former avec une professionnelle salariée qui s'appelle Coraline, et on est formés ensemble sur comment mener des actions à visée émancipatrice, c'est-à-dire à l'écoute du territoire. Et ça, je tiens à prouver qu'on peut travailler ensemble, bénévoles et salariés d'une même association en formant une même équipe.
Et cette mission de tour d'horizon, un petit peu dont tu parlais, Olivier, un an comme ça, est-ce que c'était une commande aussi venant d'un conseil d'administration de dire bon, ben maintenant il faudrait qu'on voit tout ce qui se passe ici ou...
C'est une politique des centres sociaux. C'est vraiment c'est les fondements de l'éducation populaire et de la politique des centres sociaux. Je pense pas, vous êtes d'accord avec moi ?
Bah, comme on est dans le développement des actions et du pouvoir d'agir des habitants, que ce soit notamment par le biais d'actions collectives, comme moi en plus j'arrivais sur ce territoire sans le connaître, sans l'avoir vécu, c'était assez naturel que je prenne lien avec toutes les activités qui se faisaient et qui se développe sur le territoire pour voir quel apport on pouvait avoir, nous, en tant qu'espace social, pour aider au développement des différentes activités, celles qu'on a besoin, celles qui viennent nous le demander. On n'est pas là non plus pour obliger les gens à notre accompagnement, mais on est vraiment là dans la réponse à des sollicitations qui nous sont demandées, et avec justement l'appui de professionnels qui sont formés, comme Cora, a des techniques d'animation et puis qui ont un background intéressant au niveau du développement associatif.
En tant qu'administratif, avant de laisser passer parler Coraline, il y avait quand même une démarche avant la période de crise de sensibilisation de tout le conseil d'administration et toute personne de l'espace social qui était intéressée sur la démarche du développement du pouvoir d'agir des habitants avec Yann Le Bossé. Donc, y avait cette volonté, mais la crise où il a fallu gérer la survie de l'espace social et des emplois salariés fait que ça avait été mis entre parenthèses. Mais on remet en route quelque chose qui était dans notre volonté d'agir.
Cora, à toi alors, dis-nous un peu ce que tu fais dans cet espace social. Ouais.
Ma mission, elle concerne l'animation du territoire, c'est-à-dire d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe, des dynamiques ici dans le Diwa, et de venir appuyer quand il y en a besoin. Il y a plein de dynamiques ici qui n'ont pas besoin forcément d'être accompagnées, appuyées. Il y a plein de belles choses qui se font, de projets qui se mènent. Mais il y en a aussi d'autres qui ont peut-être parfois plus de difficultés. Donc,
Tu les repères, tu vas les chercher ?
Mon travail, il consiste en l'accompagnement des porteurs de projets qui viennent me trouver. Donc, d'où l'idée aussi de venir communiquer sur ce qu'on fait pour que les groupes qui ont besoin en fait, de mieux se structurer, de mieux fonctionner ensemble, de peut-être mobiliser plus largement des bénévoles ou de redonner du sens à leur projet collectif. Donc peuvent venir me trouver, que ce soit sur n'importe quelle commune du Diwa, donc venir à l'espace social ou que nous on se déplace pour aller aussi accompagner sur place. Donc actuellement, par exemple, j'accompagne la Corderie sur leur dynamique de gouvernance. Donc là, bientôt, une grande journée pour repartager sur tout leur travail d'horizontalité, de sociocratie, etc. J'accompagne les décroissantes thunes dans l'organisation d'un nouveau festival de la gratuité pour l'été prochain. On développe la formation aussi, parce que l'idée, c'est que bien sûr, moi, je ne peux pas accompagner tous les porteurs de projets qu'il y a ici, parce qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives et de choses qui se passent. Donc là, la volonté, là, dès le mois d'octobre, c'est de lancer de la formation pour les bénévoles associatifs. Donc on va avoir tout un programme de formation que je détaillerai peut-être un peu plus tout à l'heure, pour renforcer les capacités des bénévoles dans les structures, donc que ce soit dans la fonction employeur, dans le fait d'animer la vie associative, le lien avec les bénévoles, dans le fait de savoir plutôt animer un collectif, animer des réunions, sortir un peu des réunions longues et dont on se lasse vraiment. Donc essayer d'outiller un petit peu les personnes qui ont envie de s'impliquer un peu plus dans l'animation de leur collectif. Toute la formation sur l'écoute que détaillera Pascal tout à l'heure. Et aussi plutôt des modules plus techniques sur la comptabilité, la gestion financière. Donc on vient accompagner et former le monde associatif d'IWA. À côté de ça, dans mes missions, en fait, moi j'accompagne aussi des projets un peu plus... comment dire, institutionnel à l'échelle du Diwa. Donc par exemple, suite à l'aménagement des temps scolaires, Donc il y a des communes qui sont sorties des semaines pour les enfants à 4 jours et demi, donc avec l'école le mercredi. Là, le gouvernement a laissé le choix aux communes de rester sur les cours le mercredi ou pas, à 4 jours ou 4 jours et demi. Nous, on continue d'accompagner les écoles qui déjà continuent à proposer des temps d'activité périscolaire, les TAP. Donc on accompagne et on forme les animateurs. On a une formation qui a lieu le samedi 30 septembre à destination de tous les personnels encadrants des enfants dans les écoles, donc pas instituteurs mais plutôt animateurs, ATSEM, personnels qui encadrent sur le périscolaire. Donc principalement pour les écoles qui conservent encore la semaine à 4 jours et demi avec les TAP, mais aussi pour les autres, parce qu'en plus avec, en parallèle, on en reparlera peut-être tout à l'heure, aussi la suppression de certains contrats aidés, on a aussi des effectifs qui peuvent être en baisse et du personnel qui peut être plus fragilisé dans l'encadrement d'enfants. Donc tout ce qui est autour des écoles et des enfants, avec le centre de loisirs, avec Florence Thomas, on intervient pour renforcer ça. On mène aussi un travail un peu de longue haleine sur le logement, qu'on lance doucement, mais on appelle, j'en profite de la radio pour lancer un appel aux habitants qui ont envie un petit peu de s'emparer de ces problèmes de logement dans le Diois, que ce soit pour trouver un local associatif ou que ce soit pour s'héberger en famille ou tout seul, de venir nous rejoindre et de se manifester pour en fait essayer de trouver des pistes de lobbying un petit peu, essayer de voir comment on peut faire bouger un petit peu les choses ici dans le Diois sur les questions du logement qui posent problème à plein de niveaux puis qui se retrouvent en transversal sur plein de choses, sur les gens qui viennent s'installer pour trouver un emploi, pour les gens qui viennent inscrire leurs enfants à l'école, etc. Enfin plein de choses. On mène un projet encore avec les écoles qu'on lance le 5 octobre. Il y a une rencontre à l'ESAT à 20h30 sur la question de l'alliance éducative. Donc on invite tous les parents, instituteurs, parents d'élèves qui ont envie de s'impliquer pour réfléchir à comment on fait du lien entre les parents, les enfants, les instituteurs dans les écoles. Donc on essaye de lancer un projet sur un an qui ressemble plutôt à de la recherche-action, de venir un petit peu réfléchir comment sur le Diwa, dans toutes les écoles, on peut essayer d'avoir un petit peu plus de liens et d'améliorer aussi les conditions d'enseignement pour nos enfants. C'est un peu large, hein, y a beaucoup de choses encore qui sont menées. Mais principalement pour faire court et laisser la parole, mon travail c'est vraiment, le fil rouge c'est de renforcer la participation des habitants dans la vie du Diwa. Donc que ce soit de pouvoir se réemparer de sa capacité d'agir, de trouver ses propres solutions, de répondre à ses problèmes de manière collective. Moi, je suis là pour venir accompagner ces dynamiques-là, permettre que les gens s'impliquent plus aussi dans la politique de leur commune, de leur quartier, etc. Et de renforcer aussi les liens entre habitants. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter à l'espace social aussi pour qu'on puisse vous accompagner dans les dynamiques collectives plus qu'individuelles.
Je me retourne un instant vers toi, Olivier, vers ce CA représenté par Pascal. Une crise, hein, on en a parlé au début. Pour faire très très court, un tour d'horizon a été fait. Vous vous relancez, vous retournez sur le terrain, vous mettez à l'affût de tout ce qui est possible d'accompagner, de faire. Mmh. Avec quels moyens alors ?
La carambule.
On a des moyens matériels parce qu'on est quand même relativement bien soutenu par d'autres partenaires et encore par le département, même si c'est moindre qu'auparavant. Mais la CAF, la communauté de communes, la MSA, la CARSAT, donc pour les caisses de retraite, soutiennent quand même notre action sur le territoire et ça nous permet notamment de financer ce qu'on appelle le centre social hors les murs, la carambule. On a été fortement présent à Luc sur la fin de l'année scolaire, sur les marchés, mais aussi en accompagnant un collectif d'habitants et les élus sur une demi-journée d'accueil des nouveaux habitants qui se sont réunis avec, en présence d'anciens qui étaient intéressés pour voir si justement tous ces habitants, anciens et nouveaux, pouvaient travailler de concert sur des projets qui les intéressaient. Et il y a une belle dynamique qui s'est lancée là-dessus. Depuis lundi dernier, on est à la Motte Chalancon, où on est présent sur le marché, où on a rencontré déjà des personnes qui auraient besoin, des collectifs qui auraient besoin d'être accompagnés, que ce soit pour maintenir de l'activité culturelle durant l'hiver, pour trouver des solutions justement d'accueil pour les enfants sur un territoire qui en plus à la frontière du Diwa, qui est difficile pour les habitants, cette, cette notion où ils sont tournés vers le Nyoncé sans y appartenir administrativement. Donc le Nyoncé ne vient pas à la Motte pour faire des activités. Et tout ce qui est centralisé sur Die et sur le Diois a des difficultés d'aller jusqu'à la Motte pour y faire des activités. Donc c'est toujours la grande difficulté qu'il peut y avoir sur les franges de n'importe quelle entité administrative. Et dans le Diois, vu notre étendue des franges, on en a beaucoup. On va partir de l'Uslacroote, dont les enfants ne sont, sont pas sur les mêmes périodes scolaires que ceux du reste du Diois et qui sont quand même presque à trois quarts d'heure de voiture. Pareil pour la Motte, d'autres endroits qui sont difficiles d'accès. Et Coraline parlait du problème du logement, mais il y a aussi le problème des déplacements dans notre territoire. Et on est souvent interrogé sur ces questions-là, quoi, du lien avec, sur l'ensemble du territoire, de ce qu'on pourrait apporter en termes de déplacement et de logement comme meilleure qualité de vie aux habitants. Et en, en se déplaçant sur le territoire, mais en n'y allant pas qu'une seule fois, là sur la Motte, on y va trois fois là, à l'automne sur, sur les marchés. On y retournera au printemps pour voir si ce qu'on a initié comme prise de parole, comme contact, ça peut déboucher sur des projets à accompagner. Donc c'est intéressant de se focaliser sur des endroits du territoire qui sont peut-être moins couverts, typiquement ne serait-ce que par les activités que nous proposons. Aujourd'hui, le centre social il propose plus d'une cinquantaine d'ateliers socioculturels. Il propose d'accompagner effectivement des collectifs, mais force est de constater qu'on le fait quand même beaucoup et sur Die et sur la vallée de la Drôme, et que c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette même, même si c'est un peu un terme commercial, cette même qualité de service dès qu'on va vers la vallée de Quin, vers Saint-Nazaire-du-Désert, vers la Motte Chalancon par exemple. Et donc on se doit, parce qu'on est, on a un financement intercommunal, d'apporter, en tout cas de pouvoir répondre aux sollicitations des habitants de l'ensemble du territoire. Et pour nous, c'est un peu notre vigie aujourd'hui. On développe notamment beaucoup plus cette année des ateliers sur Sainte-Croix, sur Luc, sur Châtillon, sur d'autres territoires que sur Die, pour que les habitants là-bas puissent avoir aussi accès à nos services. Et puis, on a une attention particulière pour les accompagnements qui sont sur ces territoires, parce que bah, c'est normal, c'est plus difficile d'être accompagné ou d'avoir accès à des services publics. C'est plus difficile pour tout d'habiter un peu plus loin de la ville-centre.
Absolument.
Coraline, Olivier, Pascal, si vous voulez bien maintenant, on va se concentrer sur ce pourquoi vous étiez là précisément aujourd'hui et notamment ce volet formation bénévole dont tu parlais tout à l'heure. On le dit jamais assez, mais effectivement, quand on est bénévole dans une association, cette association, elle cotise tous les ans pour des fonds de formation. Et
c'est ça, pour n'importe quelle structure qui a des salariés, on cotise à de la formation, donc on peut mobiliser son DIF, son compte personnel de formation. Il y a des choses comme ça qui existent pour les salariés. Pour les bénévoles, il existe des financements pourvu que ça dure. En tout cas, on est content d'avoir pu en mobiliser pour le Diois ici, pour cette rentrée, pour cette année 2017-2018. Donc, en fait, deux fonds qui vont nous permettre de développer la formation des bénévoles et de la rendre donc accessible à tous et gratuite. Donc là, les modules que je vais vous présenter tout à l'heure sont des modules de formation qui vont être proposés gratuitement à tous les bénévoles associatifs. Pendant la limite des places disponibles, on va être sur un maximum de 16 personnes par module de formation. Donc on a le Fonds de développement de la vie associative, FDVA, qui est un fonds plutôt national de renforcement de la vie associative, donc qu'on mobilise, qui nous permet de mobiliser du temps de travail, etc., pour permettre la formation. Et puis, d'autres part, les fonds d'un réseau qui s'appelle Savara, qui est un réseau d'appui à la vie associative en Rhône-Alpes, qui continue à financer en tout cas et à avoir des points d'appui de vie associative. Donc là, notre relais pour l'instant, c'est à Valence DPSA, Drôme Profession Sport Animation, qui nous permet de cofinancer, enfin de financer ces modules de formation.
Sur des fonds de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Encore consacré au bénévolat pour renforcer la vie associative. Donc on en profite, on est content, on va lancer ça. Donc on va vous présenter un petit peu l'ensemble des modules et des dates. Donc, tout d'abord, bon, au sein de l'espace social, vous connaissez sans doute l'atelier ABC, qui est un espace de rencontre entre des personnes de différentes cultures, différentes origines et qui ont différentes langues. Donc, un espace de renforcement des pratiques du français. Ce n'est pas des cours de français, mais c'est bien de l'alphabétisation, mais de la rencontre interculturelle aussi. Donc, qui est animé par des bénévoles et un salarié, Mehdi. Donc là, on a un module qui est spécifique pour renforcer les compétences de ces bénévoles qui sont engagés dans cet atelier ABC. Donc c'est sur une journée où on va plutôt travailler sur se réapproprier les notions alphabétisation, illettrisme, mais surtout la posture d'accompagnateur linguistique. C'est-à-dire qu'on n'est pas un prof, on est là aussi pour rencontrer, etc. Donc ça, c'est une journée, mais c'est déjà pour des bénévoles qui sont déjà investis dans cet atelier ABC le 26 septembre. On a un module que présentera tout à l'heure Pascal de manière plus détaillée sur l'écoute bienveillante qui va être animé par Clémence Lataste qui est une intervenante professionnelle sur les questions de communication non violente. Donc je laisserai Pascal le raconter un peu plus précisément tout à l'heure, mais vraiment dans l'idée de développer l'écoute active, la bienveillance dans les échanges entre bénévoles, entre salariés, enfin n'importe où dans les relations humaines et particulièrement dans nos associations.
Et pourquoi pas maintenant ?
En fait, c'est une idée qui émane des collectifs au départ et une demande aussi qui a été formulée par la corderie qui avait besoin aussi de mettre en place de l'écoute et l'envie qu'il y ait une culture commune sur le territoire de l'écoute centrée sur l'autre et bienveillante. Ça s'apprend, c'est pas si naturel que ça. C'est pas je veux conseiller, enfin j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les ondes de Radio Divoix d'ailleurs. C'est pas je veux conseiller, c'est je permets à l'autre de poser sa parole et de comprendre mieux sa pensée. Donc ce souhait qui était de développer une culture commune entre les bénévoles des associations sur les territoires, donc que les gens trouvent de l'écoute, mais aussi de préparer les conditions pour avoir un échange de pratiques pour les bénévoles. C'est-à-dire que souvent les professionnels ont un lieu où ils peuvent parler de leur pratique qui s'appelle la supervision. Et les bénévoles qui encaissent des choses parfois très lourdes n'ont pas ce lieu-là. Donc le but à terme, c'est aussi de créer cet espace-là et de pouvoir utiliser la gratuité pour les bénévoles. Donc on a choisi Clémence Lataste, il y avait plusieurs formatrices qui étaient pressenties, qui a déjà fait des formations sur le territoire. J'ai pu expérimenter sa formation en communication non violente. Elle est formée aussi et expérimentée dans les outils de la sociocratie. Donc c'est vraiment pour apprendre à faire la différence entre des opinions et des faits, avec un sentiment et une opinion, être capable d'être à l'écoute de ce qu'on ressent aussi quand on est à l'écoute de l'autre et de savoir l'utiliser dans sa pratique. Et donc on va avoir 10 demi-journées de formation qu'on a organisées sous la forme de 5 journées complètes pour des raisons de calendrier, puisque la réponse est arrivée que fin juillet et nous oblige à faire la réponse avant la fin de l'année. Donc ça sera 5 journées complètes, le 6, le 13 et le 15 octobre, et le 7 et le 22 novembre. Et on va faire, donc on a des préinscriptions, on commence à exploser sous les inscriptions, mais il est encore temps. Donc on envoie un questionnaire aux personnes qui veulent suivre la formation, et on va faire une réunion d'information le lundi 2 octobre à 9h, pour confirmer la possibilité de s'engager sur la totalité des journées de formation. Entre les journées de formation, il y aura des temps de pratique en binôme. C'est-à-dire qu'il faut prévoir à peu près 5 heures en plus du temps qu'on consacre à ces journées. Voilà, et il est encore temps donc, de donner votre mail et votre numéro de téléphone à l'accueil de l'espace social ou à Coraline. Et on va vous donner, vous aurez en ligne sur le podcast et sur les pages de Radio Diwa, les adresses mail et le téléphone.
Et même peut-être sur le site de l'espace social.
Ah, et même peut-être.
Espérons-le, ouais.
Et même peut-être.
Ça va être un peu pareil, sauf, tu le disais tout à l'heure, cette première formation ouverte aux bénévoles de l'atelier ABC. Dans tous les cas, il faut aller s'inscrire à l'espace social pour ces différentes formations.
Oui, il faut aller s'inscrire et puis s'engager aussi à participer à l'ensemble du module.
C'est ça.
Voilà, là, les 5 journées qui sont proposées, il y a vraiment l'idée qu'on participe à l'ensemble des journées avec sérieux, en arrivant à l'heure, etc. Oui. Parce que c'est une formation qui d'habitude est aussi payante, développée par Clémence par ailleurs dans son activité. Et voilà, donc on invite vraiment les personnes qui s'inscrivent à être...
Voilà, c'est de la formation sérieuse, quoi. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'il faut
c'est ça.
C'est gratuit, mais on demande un engagement quand même de la personne, quoi, une implication sur les modules.
Ouais. On va dire que c'est pris en charge par d'autres financements, donc c'est pas gratuit. Oui. C'est gratuit pour les participants, voilà. Qu'on sera aussi attentif au profil, notamment si les places se remplissent fortement. Et s'il y a besoin de faire des choix, on fera effectivement, on devra discuter des choix de ceux qui sont prioritaires ou pas. Mmh. Parce qu'on peut tous avoir une association support, entre guillemets, pour avoir accès à des formations qui d'habitude sont payantes. Mais si jamais on était explosé par le nombre d'inscrits, il faudrait qu'on fasse des choix sur les associations qu'on a le plus besoin aussi.
Voilà, on a déjà discuté, pour être tout à fait transparent sur ces critères. Donc déjà, il y a l'ordre d'inscription, mais il y a aussi la diversité des associations qui seront représentées. Donc avoir un maximum d'assos qui va être représenté dans cette formation.
On commence à en avoir. Et puis les associations représentées. Et il y en a qui ont été sollicitées, qui n'ont pas apporté de réponse encore. Et j'espère qu'il y aura au moins un bénévole de Radio Diwa qui participera.
Il y aura une réunion d'information spécifique à cette formation sur l'écoute bienveillante.
Le 2 octobre, à 9h, de 9h à 10h30, à l'espace social.
Coralie, on reprend le déroulé de ces autres formations.
Donc ça, c'est... on a souhaité développer... Dans les formations pour les bénévoles qu'on va développer l'espace social, donc il y en a que nous, on va... animer nous-mêmes, et puis on fait aussi venir des intervenants. Donc là, par exemple, Clémence Lataste, autre intervenant qui vient nous proposer sur le territoire une formation à destination des bénévoles, c'est l'association L'Ébullition, qui est une association romanaise, qui travaille beaucoup sur les questions de participation et de genre. Donc là, la formation s'intitule « Éducation et stéréotypes de genre » pour comprendre les mécanismes de reproduction du sexisme dans la construction de l'enfant, repérer les stéréotypes de genre qu'on véhicule dans les supports utilisés avec le public, en comprendre l'impact, identifier les leviers, les outils concrets pour une éducation non sexiste. Donc cette journée de formation se passe le mardi 17 octobre, toute la journée. Elle se passera dans la salle commune d'Habitaire, puisque on a cherché des salles et cette salle est plutôt agréable. Et vu la disponibilité de nos locaux, ça se passera là-bas, en tout cas cette journée. Donc le mardi 17 octobre, il reste encore de la place. Donc appelez-nous, c'est une asso super dynamique d'éducation populaire romanaise.
Il y aurait une navette pour monter à Habitaire pour les
c'est
handicapés.
C'est une bonne question. Oui, on peut organiser ça, tout à fait. On prendra contact avec l'ensemble des inscrits.
Handicapés et non handicapés, d'ailleurs.
Mais Pascal, t'as le droit de t'inscrire à toutes les formations, toi.
Disons qu'en tant que collective, il est important que je puisse aussi suivre ce qui se fait sur les stéréotypes.
Et voilà, on va en priorisera.
C'est ça. Mais comme on n'a pas l'image. Comme on n'a pas l'image à la radio, il faut dire que...
Parce qu'elle est momentanément handicapée.
Voilà, c'est vrai, c'est ça.
On pourra organiser du covoiturage pour monter sur Habitaire.
J'ai une planche à roulettes et une voiture, je pourrais te tirer jusqu'à là-haut. Si tu
veux. Il me reste un pied, je peux peut-être monter sur ta trottinette.
Du coup, il y a une autre série de modules là, qui va être proposée dès début novembre. Donc, c'est un module que je vais vous proposer d'animer, qui s'appelle « Animer le collectif ». Donc, comme je le disais un peu tout à l'heure, l'idée, c'est de renforcer les compétences des animateurs d'associations ou des personnes qui souvent se retrouvent à animer des réunions, animer des travaux de groupe, des choses comme ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment de transmettre quantité d'outils qui permettent l'expression, l'analyse, les prises de décision dans les groupes, comment on mène une réunion pour qu'elle soit au mieux structurée, vivante, dynamique, qu'on ait envie de revenir, tenir le temps de la réunion, etc., partager le temps de parole. Voilà, donc tout ça, je vous propose une formation qui va s'étaler sur 5 soirées. On va faire ça plutôt le soir, de 18h à 21h. Des sessions de 3 heures qui se passeront donc au pôle ressources du centre social. Les dates, ça sera le 6 novembre, le 13 novembre, le 23 novembre, 30 novembre, 7 décembre. Donc ça, on va de toute façon sortir une plaquette que vous trouverez dans les différents à l'espace social et puis dans les différents lieux ressources du DIWA. Pour repréciser les dates, les intitulés des modules. Et là aussi, j'encourage les gens à venir aux 5 modules que je vais proposer pour permettre vraiment de progresser à l'intérieur de ces temps de formation et d'avancer pas à pas pour sortir de là au mieux outillé. Voilà. Ensuite, il y a 3 formations encore qui n'ont pas encore les dates, mais que j'annonce dès maintenant. Donc une sur la fonction employeur dans une association. Comprendre les bases de la gestion des ressources humaines dans une asso. Qu'est-ce que ça veut dire, gestion des ressources humaines? Tant sur l'aspect administratif que sur l'aspect humain et relationnel. Qu'est-ce que ça veut dire de d'avoir un salarié dans une asso, comment on en prend soin aussi de ce salarié, etc. Comment on l'accompagne, gérer l'embauche, les fins de contrat, les dispositifs de contrat aidés s'il en reste.
Comprendre le langage Pôle emploi.
Comprendre le langage Pôle emploi, tout à fait. Donc, fonction employeur qui sera animée donc, par du personnel de l'espace social. Une autre sur la comptabilité, la gestion financière des assos. Donc là, ce n'est pas nous qui allons l'animer, c'est DPSA, donc Drôme Profession Sport Animation, qui viennent de Valence. Ils viendront animer une journée de formation pour comprendre les bases de la compta, de la gestion financière, c'est quoi un budget, c'est quoi un code comptable, un code analytique, comment justifier des financements. Et puis notamment la possibilité de découvrir un logiciel comptable et l'utiliser. Donc ça sera aussi d'ici la fin de l'année ou dès le printemps. On est en train de caler les dates. Et un dernier module, plutôt à destination des jeunes, parce que peut-être après on pourra revenir un peu sur la question de jeunesse dans le DIWA, avec un module qui va être proposé plutôt pour les jeunes qui ont envie de se lancer dans montage d'associations, gouvernance associative, venir interroger un petit peu les rapports de pouvoir dans une association, comment on s'organise ensemble. Et c'est une formation qui sera co-animée avec l'espace jeune, en partenariat sans doute avec la cité scolaire, et on va essayer de renforcer le pouvoir des jeunes dans le DIWA aussi.
Pourquoi voilà. Tu voulais qu'on en parle justement de ces jeunes ? Non mais parce que tu me permets les transitions faciles, parce que ce qui avait quand même vraiment été touché à l'espace social avec ce début de crise, hein, c'était quand même cet espace jeune, ça va mieux donc ?
Bah, disons que d'une part, ce service de l'espace social a quand même vu un emploi disparaître, un emploi à temps plein, et qui était l'emploi de coordination. Aujourd'hui, cette coordination, elle repose beaucoup sur la direction de l'espace social. Et donc, je fais des réunions de coordination avec les deux collègues qui restent attachés à l'espace jeune, qui sont obligés, au vu du temps de travail qu'ils ont à consacrer et qui est financé, qui sont obligés de prioriser beaucoup plus et les accompagnements et les missions sur lesquelles ils vont. Alors, ils travaillent effectivement beaucoup en direction de la cité scolaire. Ça leur tient encore à cœur d'avoir encore des missions en prévention spécialisée, chose qui a été touchée justement par le financement du conseil départemental. Mais c'est pas parce que le financement disparaît que les problèmes disparaissent avec le financement. Et c'est sûr qu'on est encore un territoire où on a besoin de cet accompagnement par des professionnels de jeunes qui sont en collectif ou surtout en individuel, là, qui ont des problèmes et qu'il faut soutenir dans des phases difficiles de leur vie. Donc c'est encore le travail de nos collègues et puis qui font aussi du travail collectif, d'accompagnement de collectifs pour le développement de projets, que ce soit des projets qui se passent sur le territoire ou des projets de solidarité internationale. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à leurs yeux de continuer à pouvoir aider les collectifs à s'organiser dans la droite ligne de ce qu'est le projet de l'espace social, qui est le développement du pouvoir d'agir, comme on le disait, et de renforcer les capacités des citoyens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, à s'organiser par eux-mêmes.
Voilà, puis on parle de plein d'associations. Les associations qui peuvent être montées par des jeunes, c'est effectivement un vrai bon tremplin pour développer tout un tas d'activités qui parfois pêchent sur le territoire, et puis d'autres pour les renforcer.
Non, j'allais dire, et puis les associations, c'est un vrai terrain d'expérimentation pour apprendre à faire ensemble, à agir sur un territoire et puis à utiliser la liberté qu'on a, quoi, d'avoir aussi la possibilité de monter ces associations et de développer des projets.
Et ça crée un espace social à chaque fois, différent aussi.
Et si je peux rajouter en plus à ce que vient de dire Coraline, on a réuni, nous, l'ensemble des associations qui sont hébergées chez nous. On a beaucoup d'associations qui ont leur siège social. On les a réunies d'une part pour les informer de ce qu'était désormais la nouvelle politique, on va dire, de l'espace social, parce qu'on demande une adhésion à l'année pour soutenir aussi l'ensemble des services, qui est une petite contribution pour le soutien aux services qu'on leur met à disposition. Un financement qui est demandé, qui est de 25 euros par an. 25 euros en plus si ils ont leur siège social effectivement à l'espace social. Mais c'était surtout, j'allais dire, le moment où on en a profité pour faire un tour de table en disant, écoutez, aujourd'hui, on a une richesse qui est très importante sur le territoire. Cette richesse-là, on vous demande de réfléchir à tout ce que vous savez faire. Essayez de le coucher sur papier, essayez de voir ce que vous pourriez transmettre à d'autres associations pour que, pas cette année parce qu'on avait lancé notre programme de formation, mais que pour dès l'année prochaine, ce soit vos ressources que vous avez en interne qu'on puisse mettre en avant pour développer des formations par les pairs, parce qu'aujourd'hui, avec l'ensemble du pluralisme des associations du territoire, on a de quoi se former les uns les autres, même si on a moins de moyens de la part des collectivités et de l'État.
Nous, quelque chose qu'on a déjà expérimenté avec les radios, dans les fameuses rencontres radiophoniques, si certains avaient suivi un petit peu cette aventure, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc à plusieurs, on peut se faire des grosses formations pour pas très cher. On passe à un autre sujet, Olivier, là, tu voulais qu'on a évoqué là hors antenne. Brûlant d'actualité, les emplois aidés sont supprimés, c'est un secret plus pour personne, hein, sauf peut-être un ermite, que sais-je. Vous vous lancez dans une étude là, d'impact sur le territoire ?
Ouais, déjà je vais peut-être aller à l'encontre de ce qui est la communication facile. Les emplois aidés ne sont pas supprimés.
Non.
Il n'y en a que 110 000 qui sont supprimés sur 360, si je me souviens
bien. Le concept
bien.
Va changer comme oui, chaque fois qu'il y a
évidemment.
Un nouveau président.
C'était surtout pour introduire d'une manière différente cette question. Ils ne sont pas supprimés pour tout le monde. Ils ne sont pas supprimés notamment si on en croit les nouvelles priorités pour les services qui sont développés par certaines collectivités, services qui sont obligés de fonctionner grâce à des emplois aidés parce que l'État lui-même ne les finance pas correctement. Donc en fait, les 110 000 emplois aidés qui sont supprimés, ils vont l'être beaucoup et principalement pour les associations justement et le monde associatif. Donc nous, en tant que si on voit de notre prisme associatif, on peut effectivement dire que les emplois aidés sont supprimés. Sur les collectivités, c'est compliqué aussi. On l'a vu avec la bataille qui vient de se mener au niveau des emplois aidés qui étaient sur Sainte-Croix.
L'école de Sainte-Croix.
Ouais, sur l'école de Sainte-Croix et qui permettait justement au temps périscolaire et un accueil de meilleure qualité des enfants de cette école-là. Il a fallu que les parents se mobilisent vraiment très fortement pour avoir des premières garanties qu'il allait avoir un, voire deux, je ne sais pas où ils en sont, au moins un, qui serait sauvegardé. Mais pour nous, ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui devrait avoir gain de cause. Il devrait y avoir effectivement une vraie prise en compte de ce qu'on apporte pour le territoire. Et c'est pour ça que, après sollicitation de la Fédération nationale des centres sociaux, on en avait déjà l'idée qu'on a un courrier là qui va partir en direction des associations du DIWA pour leur demander en quelques mots, ça demandera vraiment quelques minutes, de répondre à un petit questionnaire pour savoir s'ils sont impactés ou s'ils pensent être impactés par ces disparitions des emplois aidés ou en tout cas la restructuration des critères d'attribution. Aujourd'hui, Les nouvelles directives sont arrivées la semaine dernière au sein des pôles emploi. Ils ne savent pas vraiment nous dire ce qu'il en est. J'étais en réunion mercredi dernier au pôle emploi. On n'a pas d'informations bien précises. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des codes NAF, voilà, des codes d'activité donc très bureaucratiques qui sont dans la liste de ceux qui vont pouvoir bénéficier de renouvellement et que ceux qui sont en dehors de ces codes NAF ne pourront pas bénéficier des renouvellements. Donc, il est temps de se mobiliser. On voit que la mobilisation, elle marche. Et aujourd'hui, en fait, surtout, on se rend compte que c'est en grande partie à des endroits où la puissance publique s'est désengagée, où l'État s'est désengagé, que pour faire marcher les services publics, on sollicite les contrats aidés, on sollicite les services civiques. Et qu'aujourd'hui, en fait, c'est la baisse des dotations de l'État qui fait que les collectivités, les associations sont obligées de passer par ces biais-là. Moi, en tant que directeur d'une association comme l'Espace Social, je préférerais avoir que des emplois en CDI qui seraient financés correctement par la puissance publique parce qu'on a un vrai travail qui a du sens pour le territoire. Alors quand je vois que le pôle emploi a créé, fonctionne pour son accueil avec deux services civiques, il y a un moment, on marche un peu sur la tête, quoi. Et il y a quelque chose qui est pas normal de devoir fonctionner comme ça avec des bouts de chandelle et puis surtout de précariser des gens, quoi. On serait tellement plus efficace avec des gens qui ont une perspective d'avenir, qui sont sereins quant à ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Alors que là, aujourd'hui, on renouvelle sans cesse des contrats. Certains sont obligés de se séparer de contrats aidés pour en reprendre d'autres. Et ça, c'est vraiment pas normal quand il y a une vraie utilité à leur mission. Après, et je finirai là-dessus, il s'avère qu'il y a des abus et des détournements clairs de ce dispositif-là, de certains qui créent des emplois parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions pour le faire. Mais c'est toujours pareil, on prend toujours par le petit bout de la lorgnette, on montre les quelques-uns qui abusent pour dire que le système est pourri et qu'il faut le réformer de fond en comble, alors que la plupart des gens, qui est la plupart des associations et structures qui développent les emplois aidés, ils le font justement au service de la collectivité et pour que les personnes qui sont en emploi aidé, elles se forment elles-mêmes. On n'est pas dans de l'opportunisme. C'est aussi un tremplin pour les personnes qui ne trouvent pas de travail jusqu'à décrocher un de ces emplois-là, quoi.
Bien, merci pour ce plaidoyer au contrat aidé et peut-être remettre en cause quand même leur nécessité hein, si effectivement il n'y a pas de financement en face. Alors donc, répondez à ce petit questionnaire qui va donc arriver dans vos boîtes, vous autres dirigeants d'associations. Je vous remercie tous les trois, Coraline, Pascal, Olivier. Suivez donc les actualités de l'espace social et culturel du DIWA. Sur internet, dans différentes plaquettes pour retrouver tous ces modules de formation dont on a parlé. Un numéro de téléphone là comme ça de tête.
04 75 21 22 45.
Okay. Ouais.
Et les associations nouvellement créées ou qui ne reçoivent pas tellement d'informations de l'espace social, je les invite à se manifester à l'accueil pour nous laisser vos coordonnées afin qu'on communique au mieux et qu'on soit au plus près des réalités.
L'adresse mail générale, c'est contact@escdd.fr. Donc ça, elle est relevée par nos collègues à l'accueil et qui redispatchent après sur les personnes concernées. Donc n'hésitez pas à vous servir de ce médium-là.
Et pour les inscriptions aux formations de bénévoles qu'on a évoquées tout à l'heure, vous pouvez écrire sur le mail Cassité Olivier et sur mon mail coraline.mono@escdd.fr.
Donc je rappelle contact@escdd.fr ou sur le mail de Coraline,
coraline.mono@escdd.fr.
Merci à tous les trois et à la prochaine.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
Interview.
Okay, the bird.
Interview.
L'interview du jour.